Bonjour Hervé Morin.
Bonjour Frédéric Rivière.
On aurait pu ajouter ancien ministre de la Défense aussi.
Bon, bah,
mais
voilà,
c'est pas pour ça que vous êtes là ce matin.
Ça ne me rajeunit pas.
Voilà. On va rester encore un peu, si vous voulez bien, sur la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde pour se faire durer le plaisir d'une certaine manière. On parle beaucoup, comme en 98, d'une équipe de France qui représente la diversité de la France. Barack Obama lui-même, l'ancien président américain, a pris hier l'équipe de France en exemple, voilà, en disant ils n'ont pas tous des apparences de Gaulois, mais ils sont français. Et Emmanuel Macron, lui, a reçu hier les patrons des 100 plus grandes entreprises françaises pour leur demander de faire un effort d'embauche et d'apprentissage en direction des jeunes des quartiers. Est-ce que cette victoire en Coupe du Monde, celle de 2018, pourrait cette fois provoquer ce déclic ?
Tout d'abord, pour moi, il y a une grande différence d'appréciation. Passionné de foot, hein. Donc, je veux dire, je rate rien du football dans ma vie quotidienne. Ce que je constate, c'est que je me souviens très bien de la victoire de 98. En effet, c'était la victoire black-blanc-beurre.
Ouais.
Bon, on célébrait la France de la diversité,
la France réunie, la France qui s'aimait.
Voilà. Ouais. Bon, je me souviens très bien. On a beaucoup ensuite brodé politiquement à partir de cette histoire. Bon, chacun essayant de récupérer un message politique à travers tout cela. En 2018, on n'est pas du tout sur ce schéma. Le schéma, c'est celui on a exalté, on a célébré l'unité de la France, on a célébré le collectif. On a célébré la République, on a eu des joueurs qui ont chanté la Marseillaise. Souvenez-vous, moi j'ai souvent été choqué par des joueurs de l'équipe de France qui avaient la bouche fermée au moment de l'hymne national. Aujourd'hui, tout le monde chante l'hymne national. Et on a des joueurs issus de la diversité, en effet, et qui parlent de la France, qui parlent de la République, et qui ne sont pas en train de faire l'exaltation de telle ou telle communauté ou de telle et telle de leur histoire personnelle. En quelque sorte, une grande partie des Français sont issus à un moment ou à un autre d'un flux migratoire.
Donc ceux qui partent sur cette piste-là se fourvoient.
Il se trompe. Mais en revanche, là où le chef de l'État se trompe aussi, c'est quand ensuite il réunit 100 chefs d'entreprise pour leur dire « vous allez faire un effort majeur en matière d'apprentissage dans les banlieues
oui. ».
Parce que le projet de loi qu'il a porté, qui nous a valu d'ailleurs une grande partie de notre fâcherie, nous, Région de France, c'est qu'il a désormais livré l'apprentissage à la loi de l'offre et de la demande, à l'économie de marché. C'est-à-dire que demain, pour que vos auditeurs comprennent, avant, nous avions un système où c'était les régions qui avaient une carte de formation et qui ouvraient des centres de formation à différents endroits en fonction des besoins de l'économie et des populations. Désormais, on a un système...
Mais ça ne marchait pas très bien.
Mais c'est pas la faute des régions si ça marchait pas très bien.
Système ne fonctionnait pas très bien.
Pourquoi le système ne fonctionnait pas ? Pour différentes raisons. On a multiplié les normes et les règles qui fait qu'on a découragé les chefs d'entreprise à embaucher des apprentis. On a eu des politiques de yo-yo du temps de François Hollande qui fait que les chefs d'entreprise ont eu le sentiment que tout ça ne fonctionnait pas. On a par ailleurs eu une crise économique qui fait que l'apprentissage a été une des variables d'ajustement. Peu importe. Bien. Ce qui est sûr, c'est que demain, on a un prix qui est fixé par une agence nationale, comme si l'apprentissage était le même, quels que soient les bassins d'emploi, les difficultés, peu importe. Donc on va avoir une grande agence qui s'appelle France Compétences, qui va gérer ça au niveau national. Ça va être un truc absolument ahurissant, parce que derrière, pour prendre un exemple simple, derrière la notion d'hôtellerie ou de restauration, vous voyez bien que la formation pour l'hôtellerie et la restauration, pour un 3 macarons Michelin, et l'hôtellerie et la restauration pour... Ibis, ça n'est pas la même chose. Et que donc, en vérité, on a des formations qui, sous le même nom, le même vocable, ne sont pas les mêmes. Et deuxièmement, pourquoi voudriez-vous, dès lors que c'est la loi de l'offre et de la demande, avec un prix fixé de chaque formation pour chaque apprenti au niveau national, et où chacun peut demain ouvrir un centre de formation ? Demain, vous pouvez ouvrir un centre de formation.
Je vais y réfléchir.
Eh bien, pourquoi voudriez-vous qu'on aille faire ça dans les banlieues ? Pourquoi voudriez-vous que quelqu'un aille ouvrir... un centre de formation dans des zones démographiquement faibles comme en milieu rural. Vous allez avoir des centres de formation qui vont se concentrer dans les centres de ville, là où il y a de la démographie et là où il y a des bassins d'emploi faciles. Et donc on n'ira pas dans les banlieues ouvrir des centres de formation où c'est en effet plus compliqué qu'ailleurs.
Alors
et donc on est dans le schéma exactement contraire de ce qu'évoque le chef de l'État en disant « allez chercher des apprentis dans les quartiers ». Mais demain, il y aura plus de centres de formation dans les quartiers.
C'est l'une des raisons, donc, ce désaccord pour lesquels vous avez boycotté, et vous n'êtes pas le seul. Hein,
parce que l'apprentissage, c'est de l'éducation. Ouais. Et que l'éducation, ça n'est pas simplement livré à la loi de l'offre et de la demande.
Vous dénoncez chez Emmanuel Macron, je reprends les termes que vous avez employés la semaine dernière, le faux semblant du dialogue, le faux semblant de la discussion. Aujourd'hui, il y a un divorce profond entre le pouvoir central et les régions.
Mais il est avec toutes les collectivités, c'est pas simplement les régions, c'est les départements, non, sont oui, les communes. Oui. Comme si on était le monde ancien, quoi, vous voyez. En fait, grosso modo, il y a la caste de l'inspection des finances qui prend sa revanche sur le mouvement de décentralisation que la France a connu depuis 40 ans et qui, grosso modo, considère que d'un côté, il y a les ânes, que sont les élus locaux, et de l'autre, l'inspection des finances et les grands corps de l'État qui savent mieux que tous ce qu'il faut pour les Français. En oubliant que nous avons notre propre légitimité, qu'on a été élu au suffrage universel. Je rappelle que aux élections régionales, on a plus voté qu'aux élections législatives. Au cas où vous l'auriez oublié, il y a eu plus de participation au moment des élections régionales qu'au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron au moment des législatives. Bien. Derrière ça, il y a quoi ? Il y a une lecture qui est une lecture contraire à l'histoire. Le cours de l'histoire, ce sont des pouvoirs de proximité. Ce sont des pouvoirs qui sont capables d'agir rapidement quand l'État n'a pas cette agilité. Ce sont des pouvoirs qui sont capables de différencier des politiques parce que les territoires ne sont pas les mêmes. Et c'est comme ça dans tous les pays d'Europe. Dans tous les pays d'Europe qui marchent, et notamment ceux du nord de l'Europe, ce sont des pays profondément décentralisés, voire fédéraux. Et ce ne sont pas des pays où on recentralise tout dans les ministères. Et c'est ce que disait le chef de l'État durant la campagne électorale. Voilà pourquoi notre déception était plus grande. C'est que l'homme de la modernité aurait dû s'inscrire dans cette démarche girondine, décentralisatrice, qui est celle de l'efficacité. Moi, je demande pas, j'ai été ministre de la Défense, j'aime l'État. Ouais. Mais j'aime l'État là où il doit être. C'est-à-dire sur la défense, la sécurité, la justice, la police, oui, pas de problème.
Il nous reste 2 minutes, Hervé Morin, pour parler de la réduction de la dépense publique. Donc, il va falloir faire une réduction de votre temps de parole.
Bon.
Alors, faisons une réflexion. Le Figaro révèle ce matin...
De combien de pourcents, monsieur Aurélien?
Je sais pas, 30% non, peut-être. Ce matin, le Figaro révèle les préconisations du comité d'action publique 2022, donc qui doit faire des propositions pour la réduction de la dépense publique. L'objectif, c'est 30 milliards d'euros en 4 ans. Il y a des pistes qui sont évoquées, suppression des TVA à taux réduit, suppression de certaines aides à la transition énergétique, plus de revalorisation générale dans la fonction publique. Est-ce que l'objectif est trop ambitieux ou est-ce qu'il vous paraît atteignable?
Vous savez, ça fait partie des choses qu'on a racontées sous toutes les majorités. Ouais. En vérité, quand vous prenez le plan Hollande des 50 milliards, les seuls qui ont fait l'effort, c'est les collectivités territoriales, hein. Les seuls qui aujourd'hui participent au désendettement du pays, disons-le aux auditeurs, ce sont les collectivités territoriales. Oui. Moi, ma collectivité, l'accroissement de sa dépense est de moins de 20% par an. Oui. Je prends un exemple simple. Moi, je vais vous faire une proposition. Oui. Il y a 150 000 fonctionnaires à Bercy. Oui. En Allemagne, il y en a 50 000 pour le même ministère. Ben, si on supprime 100 000 postes à Bercy en les mettant dans la justice, dans la police ou dans les hôpitaux, on aura déjà beaucoup gagné pour le pays.
Merci Hervé Morin. Bonne journée.